franceinter.fr.
Pendant plus de 40 ans, les cosmologistes et les astrophysiciens ont cherché à comprendre pourquoi notre galaxie filait à plus de 631 km/h par seconde dans l'espace. Ils ont donc regardé droit devant à la recherche d'amas de galaxies assez massifs pour nous attirer et expliquer notre vitesse, mais sans succès. Aujourd'hui, des chercheurs français et américains ont décidé de regarder derrière et montrent que c'est un grand vide galactique situé à plus de 500 millions d'années-lumière qui nous pousse vers l'avant. Bonjour Daniel Pomared.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Vous êtes co-auteur de ces travaux. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire comment du vide peut nous pousser? Ça paraît absolument contre-intuitif, hein, cette histoire.
Oui, ça peut paraître contre-intuitif. Alors, ce que je vous propose, en fait, c'est de faire une expérience de pensée.
Allons-y.
Imaginez un univers infini, rempli de matière de manière uniforme. Donc, il y a autant de matière par unité de volume en tout point. Mmh. Et la seule chose qui est en action, c'est la gravitation. Alors, dans cet univers imaginaire, on est dans une situation d'équilibre. Tous les points s'attirent les uns les autres, il n'y a aucun mouvement à signaler.
Parce qu'il y a de la matière partout.
Voilà, il y a de la matière partout, ouais. La matière s'attire d'un point à l'autre de l'univers. Et maintenant, si on procède plus loin, imaginez que vous creusiez une cavité dans cet univers, que vous la rendiez vide, complètement ouais. vide. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La matière, par exemple les galaxies, qui se trouvaient en bordure de ce vide, ne vont plus ressentir la gravitation qui provenait de la matière qui se trouvait dans ce vide. Et donc, elle ne sera plus attirée, et donc le reste de l'univers va l'attirer davantage, et donc ça va résulter en fait en une répulsion. Qui a son origine dans le centre du vide.
Eh ben merci d'être venu, voilà. on a tout non, compris,
hein, compris.
Ça y est.
on a longtemps entendu parler du grand attracteur pour expliquer notre mouvement. Il n'était pas suffisant au final, c'est comme ça qu'on a procédé?
Oui, c'est ça. Alors, ce mouvement de 630 km par seconde, il a... C'est
631, soyez précis.
631 km par seconde.
On est dans une émission scientifique.
Donc c'est vertigineux en fait, hein. Ouais, 2,2 millions de kilomètres par heure. Qui sont à expliquer.
Oui.
La première manifestation de ce mouvement, en fait, ça a été vu dans le fond diffus cosmologique, en fait, qui sont des photons émis dans une phase où l'univers était jeune, où il a refroidi suffisamment, en fait, pour libérer la lumière. Et cette lumière voyage et remplit l'univers et constitue un rayonnement isotropique.
C'est 380 000 ans après le
Big
Bang.
Exactement. C'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que si on est en mouvement, il doit exister un phénomène de décalage de la longueur d'onde, un effet Doppler, qui fait que dans la direction où on se dirige, les photons vont être décalés vers le bleu, et dans la direction opposée, décalés vers le rouge. Et ça crée ce qu'on appelle un dipôle, une distribution dipolaire. Et c'est en analysant ce dipôle qu'on en a conclu qu'on était animé d'une vitesse de 630 km par seconde.
C'est ultra précis, enfin c'est sidérant quand même, oui, d'arriver à une telle précision pour notre galaxie. Enfin,
et c'est d'autant plus important qu'il faut savoir le contrôler pour le soustraire des cartes du fond diffus cosmologique sur lesquelles est basé les analyses cosmologiques les plus précises qui permettent de déterminer les paramètres du modèle standard de la cosmologie.
Comment ça se crée un vide dans l'univers?
Alors, c'est justement ces cartes des fluctuations du fond diffus cosmologique qui nous renseignent là-dessus. Donc, on pense dans le modèle standard de la cosmologie qu'il y a eu des fluctuations initiales de la densité. Donc, des surdensités qui se sont créées, qui ont donné lieu à la naissance de superamas de galaxies, et des sous-densités qui, elles, par la suite, ont donné lieu à la création de vides, tels que celui que nous observons aujourd'hui.
Ça doit pas être facile d'observer le ciel et de trouver un vide, puisque, justement, il n'y a rien. Comment vous l'avez trouvé?
Alors, nous...
Le vide dans le rien, c'est,
oui.
C'est pas simple. Oui.
Alors, les vides sont vus dans certaines régions du ciel où il est confortable d'observer. Par contre, ce grand vide, il se trouve dans une région qui souffre de deux difficultés. Donc premièrement, il se trouve près de ce qu'on appelle la zone d'obscuration. La zone d'obscuration, en fait, c'est une région de l'univers qui nous est cachée par le disque de matière de notre propre galaxie, la Voie lactée. Donc nous sommes immergés dans un disque qui est rempli d'étoiles, de poussière, et ça nous cache ce qui se trouve derrière. Et ce vide se trouve à proximité de cette région. Ouais. Et une deuxième difficulté aussi, c'est qu'on est dans la zone, en fait, où qui fait la frontière entre ce que les télescopes de l'hémisphère nord observent et ce que les télescopes de l'hémisphère sud observent. Et donc, on a un petit peu comme ça cet endroit qui est mal observé par les télescopes, par exemple le radiotélescope de Green Bank. Aux États-Unis ou de Parkes en Australie.
Ouais. Mais c'est pas mieux de prendre les télescopes qui sont dans le ciel justement pour faire ce type d'observation ?
Alors pour cette thématique, on a besoin d'une mesure en radio pour faire intervenir des techniques de mesure de la distance et de la vitesse des galaxies. Voilà.
Ouais. Alors on sait ce qui nous pousse, on sait à quelle vitesse on va, mais où est-ce qu'on va, nous et les galaxies qui
Ah
nous
oui, c'est les grandes questions existentielles finalement.
Oui, hein.
Où allons-nous
oui.
Alors, ce qu'indique notre étude, c'est qu'il y a deux acteurs principaux qui sont... Alors, c'est aussi pour reprendre votre question de tout à l'heure sur l'amas du Centaure. Donc, on a, au fil des ans, donc, après cette découverte de la vitesse de notre galaxie, on a suspecté une région vers l'amas du Centaure que les chercheurs de l'époque ont baptisé le grand attracteur, qui ne suffisait pas à expliquer totalement notre mouvement en termes d'amplitude et de direction. Les années ont passé, on a suspecté ensuite la concentration d'amas de galaxies, une concentration géante d'amas de galaxies avec plus d'une vingtaine d'amas de galaxies, qui chacun contiennent plus de 1000 galaxies, dans un endroit qu'on appelle la concentration de Chapelet. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nous subissons deux influences. Donc, l'influence de ce vide que nous avons appelé le répulseur du dipôle, en référence au phénomène du dipôle. Et on est aussi donc sous l'influence de l'attracteur dans la région de Chapelet. Et on avance dans notre article donc que ces deux contributions expliquent notre mouvement et notre vitesse.
Donc on est à la fois attiré et repoussé, ce qui
Exactement.
Les deux à la fois les nous donnent cette vitesse.
C'est ça. Toutes les galaxies ne vont pas à la même vitesse alors ?
Et ben en fait, ce qu'on peut appeler le champ de vitesse en trois dimensions est extrêmement compliqué, on le reconstruit, c'est ce qu'on montre justement dans nos cartes, dans les cartes des courants cosmiques qu'on présente dans cet article. Et il y a toutes sortes de situations qui se présentent. Si par exemple vous êtes à proximité de l'amas de la Vierge, vous serez attiré par cet amas. Si vous êtes dans un filament qui court vers le grand attracteur, vous serez pris dans ce filament comme dans une autoroute. Et il y a la situation des vides aussi, qui se vident de plus en plus et qui créent ces mouvements qui ont pour origine le centre du vide.
Allez, ouais. Une dernière question, Axel. Oui,
quelle distance parcourir entre le répulseur et le répulseur, ou comment vous l'appelez ?
Alors en anglais le dipole repeller, et on voit comment les gens réagissent, mais pour l'instant on l'appelle le répulseur du dipôle.
Alors entre ce répulseur et l'attracteur, quelle distance il y a ?
Entre nous et le répulseur, c'est typiquement 500 millions d'années-lumière. Mmh. Et il y a un peu plus de la même chose à l'attracteur, donc on est typiquement sur 1 milliard d'années-lumière entre ces deux acteurs principaux de l'univers local.
Bon, et la rencontre avec Andromède, c'est prévu pour quand, a priori, cette galaxie dans laquelle nous allons entrer en collision, hein ?
Alors ça, c'est l'objet d'études sur lesquelles mon groupe travaille aussi. Et
c'est prévu pour quand ?
Pour l'instant, 3-4 milliards d'années.
Bon, 3-4
milliards d'années.
On a un peu de distance devant nous. Donc on retient ça, 631 km par seconde, hein, la vitesse de notre galaxie. Merci beaucoup, Daniel Pomarel, pour vos explications. Merci Axel, à demain.
À demain, Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, des antibiotiques qui peuvent bénéficier à des bactéries, c'est le surprenant résultat d'une recherche effectuée par des scientifiques de l'université d'Exeter. Ces derniers ont exposé des bactéries E. coli à différents antibiotiques et ont constaté non seulement que leur résistance aux antibiotiques avait augmenté, mais surtout que leur vitesse de reproduction avait également augmenté. Pour les auteurs de l'étude, cela démontre l'importance d'utiliser très rapidement des antibiotiques adaptés lors d'un traitement clinique. Le Saccharitus coronarius, voici le nom de notre plus vieil ancêtre découvert à ce jour, d'une taille de l'ordre du millimètre, doté d'une large bouche mais sans anus. L'ancêtre d'une grande partie des êtres vivants d'aujourd'hui vivait il y a 540 millions d'années parmi les grains de sable des fonds marins avant même l'apparition des premiers poissons. Selon Nature, les scientifiques ont dû passer près de 3 tonnes de pierres de chaux au peigne fin pour retrouver ce minuscule fossile dans le centre de la Chine. Et puis de l'oxygène trouvé sur la Lune qui provient de la Terre 5 jours par mois. Lorsque notre planète s'interpose entre le Soleil et la Lune, des atomes d'oxygène de notre atmosphère s'échappe jusqu'à notre satellite. Selon les chercheurs japonais à l'origine de cette découverte publiée dans Nature Astronomy, ces atomes arrachés à la couche d'ozone de notre atmosphère peuvent effectuer ce trajet uniquement durant cette période où notre magnétosphère protège la Lune des vents solaires. Cette découverte explique enfin pourquoi des proportions typiquement terrestres d'isotopes d'oxygène ont été retrouvées dans des roches lunaires.